Bonjour Bertrand.
Bonjour Sarah.
Je vous remercie de nous accueillir par téléphone. Vous faites partie de la compagnie Bigre et vous nous rejoignez pour présenter votre spectacle Petite Fête Métaphoraine qui aura lieu la semaine prochaine à Saint-Julien-en-Vercors et puis on va prendre un petit moment pour parler de votre compagnie. Mais tout de suite, on va commencer par la première chose qui nous interpelle, et ça c'est le nom du spectacle. Qu'est-ce que c'est, une petite fête métaphoraine?
Ah oui, la petite fête métaphoraine. Bon, évidemment, d'abord on entend la petite fête foraine, et ben non. Moi j'ai été longtemps dans l'art forain aussi, et dans la construction de spectacles. Mais là, quand j'ai eu envie de ce titre-là, je me suis dit, tiens, la petite fête métaphoraine, ça irait bien pour un spectacle qui tournerait autour d'un auteur qui s'appelle Richard Brautigan et qui écrivait énormément de magnifiques métaphores. Donc, le titre était trouvé. Il y a un côté attractif dans une fête foraine et j'avais envie de faire une attraction qui mélangerait du cinéma, de la marionnette, du théâtre d'objets, du jeu d'acteurs, de la radio, j'en oublie certainement, du suspense, de l'action et de la joie de vivre.
Donc c'est un mélange entre une fête foraine et une métaphore.
Voilà.
Et c'est du coup aussi un mélange entre des références littéraires, vous venez de nommer Brautigan, et des choses très concrètes, des objets.
Oui. Oui, oui, parce que en fait, moi, depuis que je suis tout gamin, je joue. Alors, on parle pas de théâtre d'objets quand on a 5 ans et qu'on joue avec ses Barbies ou avec ses mécanos, mais moi, j'ai vraiment eu envie de garder ça. Je pense que c'est ça un peu qui m'a aidé à conserver mon imaginaire pour lutter contre des choses mauvaises qui auraient pu m'arriver et qui me sont arrivées. Et maintenant, j'ai 55 ans et je continue de faire ça avec autant de joie, de force, et j'adore transmettre ça, de pas lâcher la main de l'enfant qu'on a été, qu'on ait eu une enfance difficile ou pas. En fait, c'est de continuer à croire en des choses, et je pense que par le biais des contes, par le biais de l'écriture, de la poésie, et des petites phrases qu'on a dans la bouche, qui ne sont pas des phrases toutes faites, mais des phrases qu'on a envie d'inventer, qui nous sortent en relation avec des images, ben, ça fait des belles conversations, ça peut faire des belles lettres d'amour, ça peut faire des belles choses, en tout cas, ça peut créer des belles relations uniques, les uns et les unes envers les autres. Et c'est ça qui me plaît derrière tout ça.
Et les premiers défis peut-être donc de cette création, c'est de rendre visible ou perceptible les liens entre les mots et des choses qu'on peut toucher ou voir prendre vie sur la scène.
Oui, bah, donc là, si on veut rentrer dans les détails, donc moi, ce spectacle-là a commencé pendant le confinement, où j'ai préparé une petite liste des choses que j'avais vraiment très envie de faire dans ma vie. Et il y avait, puisque j'écris beaucoup, et de la poésie, et puis par le biais d'interventions avec des ateliers d'écriture, soit dans des écoles, soit dans le service pénitentiaire, soit en hôpital psychiatrique, j'avais envie de faire, j'ai écrit sur ma liste, j'avais envie de faire une pièce de théâtre. J'avais envie de manipuler des marionnettes. J'avais envie de faire une équipe, de travailler sur le son, de travailler sur un moment qui serait un moment à partager avec donc du cinéma et puis tout ce que je vous ai dit avant, de la marionnette, une belle intrigue et puis une belle écriture. Donc je me suis vraiment régalé depuis 3 ans à écrire cette pièce de théâtre qui est accessible de 7 à l'infini.
Et comment on passe de l'écriture au fait de rendre vivant cette écriture sur une scène?
Mais justement, c'est un peu le nœud de l'histoire, c'est que ce sont c'est l'histoire de deux personnages, une seule et Gratiel, qui sont incarnés donc au plateau, et qui sont, je vais essayer de pas trop dévoiler, mais qui se retrouvent dans une corbeille d'un écrivain qui vient de disparaître. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé le principe, et j'en parle ici à la radio, j'ai eu envie d'utiliser le temps de ce moment-là, de spectacle, comme une émission radio sur les livres qui n'existaient pas. Donc au tout départ, c'est une speakerine qui nous explique que son émission sur les livres qui n'existent pas va parler de cette histoire-là, et il y a une heure pour parler de ça. Donc en fait, ils sont coincés dans cette heure. Et moi, ce qui me plaît bien, c'est le parallèle qu'il peut y avoir entre des personnages qui sont dans un livre, et si on ne l'ouvre pas, eh ben, ils n'existent pas. Et puis ce moment de radio, qui est en fait un moment vivant, puisque à partir du moment où les personnes ouvrent leur poste et écoutent, ils vont entendre la voix. Et s'ils ne l'écoutent pas, ben, ils n'entendront pas. C'est comme si ça n'avait pas existé.
Donc, ça nous fait particulièrement plaisir à la radio d'entendre ça, parce que finalement, ce qui se transmet, c'est les sons. Il peut redonner vie à des textes qui se sont retrouvés dans une poubelle et à des personnages qui ne sont plus en cherche d'auteur, mais qui ont perdu leur auteur.
Oui. Ah oui, mais ça, c'est aussi quelque chose. Parce que moi, j'écoute beaucoup la radio et je vois à quel point ça peut vous ouvrir des pistes de lecture, des pistes pour la musique, pour les pensées. Et je vois que... Enfin, j'avais envie de rendre aussi hommage à la radio pour ça, en tant que poste d'épanouissement. Et je vois ça quand j'étais gamin, j'ai écouté des émissions radio qui m'ont transformé. Et j'adorais ce moment-là, et je continue. Et je trouve que c'est peu mis en scène.
Je précise pour nos auditeurs et auditrices, oui, que nous n'avons pas payé pour dire cela à notre micro. Mais du coup, ça nous intéresse de savoir comment vous avez mis en scène du coup les sons de la radio pour les rendre adaptés au cadre théâtral, finalement.
D'accord. Déjà, j'espère que vous aurez envie de venir le 9 avril.
Non, le 9 février.
Le 9 février, pardon. Oui. Donc déjà, que vous veniez sur place. Ensuite, au niveau de la qualité du son, en voyant le spectacle, vous allez nous voir que nous deux, on est deux sur scène, avec tous ces objets, toute cette histoire. Mais derrière tout ça, dans l'équipe, il y a eu un très beau travail de son, puisque je souhaitais vraiment qu'on puisse entendre pendant le spectacle cette voix qu'on peut entendre à l'intérieur de soi quand on lit un livre. Et je crois qu'on a réussi, parce qu'on a déjà fait quelques sorties de résidence, et on nous a dit qu'à cet endroit-là du son, c'était vraiment très intime. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. On ne s'est pas trompé à cet endroit-là, et c'est vrai que c'était pas facile de réussir à ne pas perdre cette petite voix intérieure.
Et donc, ça fait toute une gamme des manières d'entendre, parce que on va entendre une speakerine, donc peut-être la forme la plus publique des paroles, et oui, jusqu'à entendre la voix intérieure de quelqu'un qui lit un livre pour soi-même.
Ben oui, et puis aussi, je crois que ce qui m'intéresse aussi dans la façon d'écrire, moi, cette pièce, c'est que je vois les formats que peuvent parfois utiliser, ne serait-ce que dans les rythmes des phrases, dans des radios que je n'aime pas, ou ce qui va à l'envers de la poésie. Et justement, j'avais envie d'être dans ce grand chambardement de tous les sens pour qu'on puisse entendre tout ça en même temps. Alors c'est vrai que ça a été un peu compliqué de mélanger du cinéma, de l'ombre. Je tenais, par exemple, aussi à ce que les personnages ne savent pas s'ils ont 7 ans ou 120 ans. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on dit un spectacle tout public, c'est vrai que j'ai vraiment envie de ça. J'avais vraiment envie qu'on puisse avoir une lecture de ce spectacle à 6-7 ans et une autre à 55 ou à 70.
En parlant d'âge, ça nous donne envie de poser une question sur les temps dans votre spectacle, parce que sur scène, il y a une machine à écrire. Est-ce qu'il y a un côté nostalgique dans ces choix ?
Alors, nostalgique, non. Mais non, j'aime certaines machines. Et j'avoue que moi, bon, en tant que jeune personne qui a eu énormément de mal à l'école pour ma dyslexie et puis pour mon écriture qui était toute moche, j'ai un souvenir palpable du moment la première fois où j'ai tapé à la machine chez mes grands-parents mon prénom, et j'ai vu à quel point c'était propre, j'ai vu à quel point ça ressemblait à l'écriture d'un livre, et j'ai trouvé que cet instrument était magique. Et donc j'ai un amour pour la machine à écrire, pour le son que ça fait, pour tout ce qui est autour de ça. Donc, et quand j'ai vu dans mon rêve là du tout début d'il y a 3 ans pendant le confinement une machine à écrire géante dans laquelle on pourrait rentrer, raconter une histoire et dont la feuille blanche là-haut pourrait servir d'écran où on pourrait faire le pont direct entre des mots et des images et une histoire, je me suis dit, ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc ça a commencé comme ça, par une scénographie, parce que je pouvais faire tout ça. Et après, on a rajouté des caméras en direct, enfin, tout s'est greffé sur cette idée. Mais en tout cas, bon, évidemment, je sais que c'est pas de la nostalgie, mais je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui ont jamais vu une machine à écrire.
Et jamais entendu son son, justement.
Et jamais entendu son son, mais comme non plus les touches de nos téléphones quand les cadrans revenaient. Enfin, quand ça faisait un petit trrr, comme ça.
Donc, vous n'avez pas mis de la nostalgie là-dedans, mais l'envie de faire un dispositif qui arrive à inclure beaucoup d'autres formes et outils d'expression.
Oui, en fait, oui, non, mais je suis pas du tout dans la nostalgie, parce que je trouve que la nostalgie, c'est quelque chose qui me va pas. Mais en fait, c'est aussi cette histoire-là, elle se passe en relation avec Richard Brautigan à une certaine époque. Et à cette époque-là, Richard Brautigan écrivait à la machine à écrire. Donc, comme pour moi, c'est un peu la sienne, c'était dans ce moment-là, des années 70, aux États-Unis, que se passe l'histoire, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette machine à écrire. Et puis, c'est vrai que ça s'y prête bien, quand vous verrez ça, ça s'y prête bien à devenir une scène de théâtre. Et puis, c'est quel plaisir de pouvoir rentrer dans une machine à écrire en vrai.
Ça donne effectivement très envie.
Ah,
et
oui.
L'occasion de vous consacrer à la création de ce dispositif vous a aussi été donnée par votre appartenance et votre participation à la compagnie Bigre.
Oui, oui. Alors, évidemment, parce que bon, dans toute cette équipe, il y a donc bon, au plateau... Il y a Sandrine Führer, elle est comédienne, donc elle m'a vraiment bien aiguillé sur le fait de tenir un corps, les yeux, le regard autour de la marionnette et d'un texte. Elle m'a aiguillé aussi énormément en montage vidéo. Et je peux, moi, je connaissais pas du tout ça, et j'ai trouvé ça fascinant. Parce que donc moi, on a fait les tournages aussi, mais il y a la façon de couper, de ciseler des images en relation avec le texte et en relation avec la bande-son qui est magnifique. Donc pour ça, j'ai vraiment grandi et je crois que j'ai envie de faire énormément de... J'ai commencé un peu à faire des podcasts, mais j'ai envie de continuer sur cette voie-là. Et puis donc le son, j'en parlais tout à l'heure avec Hélène Marseille et Lionel Malric, m'ont aidé, donc, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, après, au bureau, Marie Dangean, qui s'occupe donc de la compagnie Bigre, et on a eu des voix extérieures qui ont été portées par des gens qu'on ne voit pas au plateau, mais qui sont incorporées dans des personnages, donc Françoise Sour et Chris Chanet, en l'occurrence. Et puis, on a eu des yeux extérieurs, parce que, évidemment... Nous, on a fabriqué tout ça en plusieurs petites résidences, avec des fois du public pas forcément qui était déjà venu au théâtre. Parce qu'à côté de chez nous, il y a un... Bon, non, faut pas que je commence à parler de tout ça.
Mais c'est intéressant, parce que c'est la première intention. Un public auquel on a pensé pendant la création, ça a traduit une intention artistique, finalement.
Oui, oui. Bah, là, en l'occurrence, il y a un centre de désintoxication pour des personnes qui ont vraiment des problèmes avec la toxicomanie. Et on avait souhaité pouvoir leur faire voir une sortie de résidence, et, juste pour eux, pour qu'il y ait pas un... pour qu'on puisse être dans une intimité. Donc c'est des personnes qui n'avaient pas forcément été au théâtre, pour toutes et tous, et puis qui n'avaient pas une idée toute précise de ce qu'était la marionnette. Et ils nous ont fait des retours qu'on a gardés, parce qu'ils sont précieux, de la façon dont ils ont perçu l'aventure, les chapitrages, le comment se faisait le lien entre ce qui était dit, ce qui n'était pas compris. Donc ça, moi j'adore avoir du public très large qui vous dit des choses spontanées. Il y a aussi énormément d'enfants qui nous ont dit des choses très claires sur ce qu'ils avaient compris et pas compris. Et donc là, on a fait 4 résidences successives. Et à chaque fois, je regrattais, je retransformais les textes, on a changé les vidéos pour essayer d'être le plus... Même si c'est un peu farfelu, j'avais envie quand même que ça puisse se tenir dans la... qu'on puisse être pris, en tout cas, que ça soit une vraie attraction.
Une implication, de transporter les personnes, les publics.
Voilà, qu'on sente qu'il va y avoir des surprises de partout. Et donc là, quand on sort, je vois des enfants même de 5-6 ans, là, c'est... Pour moi, c'est un peu jeune, mais en tout cas, reste pendant une heure et ne s'ennuie pas, déjà. Parce qu'il y a une telle relation entre le cinéma, les objets, et puis nous, on est je pense qu'on fait ça sérieusement, mais on se prend pas au sérieux. Et il y a un temps qui est intime et qui touche, qui a touché en tout cas un grand nombre de personnes. Et ça m'enchante. Et donc, ce qui m'enchante, en l'occurrence, ça va être la première fois qu'on va faire ça, là, dans le Vercors. C'est donc le 2 jours avant notre représentation. Nous allons aller dans un lycée à La Chapelle, en Vercors.
Dans un collège ?
C'est un collège, pardon.
Parce qu'on n'a pas de lycée à La Chapelle, en Vercors.
Pardon. avec quelques-uns de nos accessoires. Et on va faire une petite présentation de ce qui va se passer. Et on va jouer pour eux le matin du 9 à 10h30. C'est pas public, mais en tout cas, nous aurons vu avant et on aura pu discuter de pourquoi faire un spectacle, pourquoi avoir envie d'une happy end. Faut savoir que le spectacle la grande ligne directrice, c'est quand même de comment on fait avec nos peurs, comment on fait avec notre résignation, qu'est-ce qui se passe et comment on peut se tenir les coudes les uns les unes et les autres pour essayer s'aider à tenir dans des situations difficiles et de se dire que à la fin ça se finit bien.
On a envie de dire que vous n'allez pas être déçu du jeune public de La Chapelle-en-Vercors qui a quelques professeurs passionnés de théâtre,
d'accord,
qui les nourrit au théâtre depuis la 6e et jusqu'à la 3e et dont on a l'habitude de voir des spectacles magnifiques en fin d'année. Donc
oui.
Vous allez trouver votre bonheur, je pense. Et on peut peut-être conclure avec quelques mots sur la compagnie en elle-même. La compagnie Bigre, elle existe depuis beaucoup de temps.
Bon, elle existe depuis... alors, en temps, je ne sais pas, parce que ça a été long à mettre en place, mais je crois que depuis 12-13 ans, en fait, et nous sommes les locaux sont à Pont-de-Barret, dans la Drôme, et donc nous faisons plusieurs spectacles pour les jeunes. Enfin, quand on dit spectacle pour jeunes, c'est aussi, on imagine toujours que les parents vont être avec, et quand on souhaite toujours faire des doubles lectures. Donc c'est des spectacles tout public. Et là, en l'occurrence, en ce moment, Marie Bouchacourt, qui fait partie de la compagnie Bigre, est en résidence au Met sur un autre spectacle qui s'appelle Allons-y. Il y a Lou Scrapeau aussi, qui est un jeu autour des mots, qui va aussi dans plein d'endroits. Et nous sommes actuellement régionale d'éducation et du artistique et culturel à PH de Roussillon. Donc là, on va se retrouver dans des lieux et pour essayer de tramer des choses avec les gens et à travers notre façon de voir les choses, de donner, de recevoir, pour qu'il se passe quelque chose d'un petit peu merveilleux à l'endroit de notre rencontre.
Super, donc plein de projets pour cette compagnie. Les éditeurs et éditrices peuvent aussi retrouver tous vos projets sur le site de la compagnie.
Oui, il y a un site Compagnie Bigre. Bon, en tout cas, si l'émission se termine bientôt, c'est vrai que je voudrais remercier aussi la CCR du Royan qui est en partenariat pour notre venue ici avec Lux, sans quoi les choses ne seraient pas faisables. Je suis sûr que j'oublie plein de monde, donc en tout cas je remercie toute l'équipe qui a pu permettre cette
venue du spectacle Saint-Julien-Vercors.
Voilà, en sachant que c'est les premières vraies sorties comme ça, et que on s'en fait toute une fête, et que voilà, en tout cas c'est une belle aventure aussi en coulisses de rencontres, de partage des savoir-faire pour réussir à faire quelque chose qui nous touche et qui nous fait du bien dans ces périodes qui sont un petit peu bouleversées.
Donc on propose à tout le monde de venir faire la fête métaforaine à Saint-Julien-Vercors à 20h les 9 février à Saint-Julien. Donc voilà. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup Bertrand.
Et je vous remercie beaucoup Sarah et toute l'équipe de la radio.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose que vous auriez oublié ou que j'aurais oublié de vous demander?
Oui, non, mais je pourrais peut-être finir par une petite phrase qu'on voit dans le texte qui est poétique. C'est à un moment donné, un personnage se retrouve dans le noir et il dit, mais on dirait de l'obscurité qui serait fabriquée avec de la transparence endormie. Voilà, c'est le genre de petite phrase que j'adore. C'est ça, peut-être.
En raison du goût de jouer avec le côté poétique de la construction du texte et du spectacle. Voilà. Merci beaucoup.
Plaisir.